Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Si l'hiver a su se montrer rigoureux en ce début d'année, les frimas de janvier ne changent rien au constat alarmant de Météo France. 2025 comme avant elle, 2022, 2023 et 2024 sont les années les plus chaudes jamais enregistrées dans l'Hexagone depuis 1900. Le changement climatique, qui sera d'ailleurs, parenthèse teasing, le sujet du magazine Lume à paraître très bientôt, le changement climatique donc affecte en premier lieu l'agriculture et a fortiori dans nos territoires septentrionaux plus concernés encore que le reste de la France. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, dans le Haut-Languedoc, territoire très rural de 1900 km², s'étalant de l'Orbe au nord jusqu'à Capestan au sud et de la plaine du Logaret à l'ouest jusqu'au Biterrois à l'est, le nombre d'exploitations agricoles a chuté de 60% en un peu plus de 20 ans. Un déclin qui remet très clairement en cause la capacité de résilience de nos régions, et si le changement climatique n'en est pas la seule cause, il en sera l'acteur principal dans les prochaines années, si rien n'est fait. Alors comment lutter ? Face à ces changements qui s'annoncent plus que jamais inéluctables, comment le secteur agricole peut-il s'adapter ? En premier lieu, en ayant une perception juste de sa vulnérabilité et des facteurs de cette vulnérabilité, pour les agriculteurs, voilà. En second lieu, en faisant des choix stratégiques éclairés. Voilà pour les pouvoirs publics. Alors, pour répondre à cette double injonction, nos invités ont mené une étude, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, ils nous l'expliqueront, une étude qui combine ces deux approches, l'évaluation de la vulnérabilité des exploitations et l'évaluation de la perception des facteurs de vulnérabilité par les agriculteurs. Ils sont avec nous dans le studio, ils sont trois. Abderraouf Zahatra, bonjour.
Bonjour.
Mélanie Requier et Hélène Révalette, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, Abderraouf et Mélanie, vous êtes chercheurs et chercheuses au Centre international de hautes études agronomiques Montpellier-Rhin, le CIEAM, c'est ça ?
Oui.
Parfait. Ah, c'est ça. Hélène Révalette, vous êtes économiste donc au Centre d'économie de l'environnement.
De Montpellier,
merci beaucoup. Alors avec elle, nul besoin de panneaux solaires, son énergie fait tourner la radio à plein régime. Avec moi pour alimenter cette interview, Aline Perriot.
Bonjour Lucie, bonjour tout le monde.
Mon invitée de dernière minute sera Marianne Dupré-Gabiro, la chef du service de culture scientifique de l'Université de Montpellier. Et oui, c'est reparti pour un tour, elle vient nous présenter la nouvelle saison du Bar des Sciences et on commencera avec le thème des maladies virales cette saison. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56...
Alors, ce fameux changement climatique dont on a parlé en introduction, il affecte les territoires de différentes manières, on s'en doute, selon la géographie, selon les spécificités socio-économiques. Abderraouf Zahatra, votre étude, qui est aussi un papier de thèse, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Elle porte sur le Haut-Languedoc. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel type de paysage on trouve dans ce territoire et quelle agriculture on est pratique ? Alors, je m'adresse à vous, mais vous pouvez bien sûr y aller, Mélanie Requier des Jardins et Hélène Révalette.
Oui, le territoire Bio-Languedoc est vignoble, en fait. C'est un territoire qui est composé de 102 communes qui s'étend entre Béziers et Castres. Et il est dominé principalement par la viticulture. Après, presque la viticulture présente 70% en fait, du territoire. Et après, on trouve d'autres types d'exploitations agricoles, notamment les exploitations maraîchères, les céréaliers et les arboricultures.
Oui, on peut également ajouter qu'il y a une dominante d'agriculture familiale sur ce territoire, qui est également caractérisée par beaucoup d'espaces naturels et en particulier de forêts, et qui est donc très préservée.
Et oui, je n'ai pas cité en introduction, mais c'est impressionnant, la grande partie du territoire est forestier, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, en revanche, oui, Lucie l'a dit en introduction, le territoire, il a perdu 60% de ses exploitations entre 1988 et 2010. Est-ce qu'on a aussi une baisse de la surface cultivée et une baisse des rendements qui correspondent à cette perte d'exploitation, Abderraouf Zahatra ?
La baisse de surface cultivée, en fait, c'est pas de la même façon que la baisse du nombre d'exploitations agricoles. Notamment, les surfaces agricoles, dans la même période, ont baissé de 50 000 hectares à 40 000 hectares. Donc, c'est pas les mêmes façons, alors que les exploitations agricoles ont baissé trois fois presque.
Donc on a quand même un élargissement des exploitations.
Donc ceci, en fait, ça pose même, en fait, ça empire degré notre problématique, en fait, qu'il y a des exploitations agricoles qui souffrent, en fait, du changement climatique, mais il y a certaines, en fait, qui s'adaptent mieux et d'autres, en fait, qui s'adaptent pas, en fait. Et donc il y aura peut-être, en fait, un grandissement de certaines exploitations agricoles et d'autres, en fait, qui s'abandonnent.
Mmh. On va voir se redessiner un peu. Ouais.
Et là, on parle de chiffres qui vont jusqu'à 2010. Est-ce que depuis 2010, la tendance est restée la même ou est-ce que ça a changé ?
Ouais, c'est la même tendance. Presque, on remarque les mêmes tendances maintenant.
Alors, cette étude, elle porte donc sur la vulnérabilité. On se doute que c'est pas facile à mesurer, cette vulnérabilité des exploitations. Le GIEC propose une définition, ou en tout cas définit le concept. Est-ce que vous pouvez nous définir aussi ce concept, Mélanie Requier-Desjardins ?
Oui, bien sûr. Bon, très rapidement, le GIEC a deux approches de la vulnérabilité qui sont assez différentes. La première en 2007, qui est une approche quantitative qui dit que la vulnérabilité, c'est le produit de l'exposition, qui est le proxy, c'est les aléas, en fait, les catastrophes naturelles, essentiellement par la sensibilité du territoire, qui est assez délicate à définir, sur la capacité d'adaptation du territoire. Et en général, on considère que la sensibilité fait référence aux dimensions biophysiques et la capacité d'adaptation aux dimensions socio-économiques. Mais en fait, cette définition, elle a été complètement contredite par le rapport du GIEC de 2014, qui lui rentre sur la vulnérabilité par le risque climatique, qui est en fait l'indicateur majeur qu'il souhaite promouvoir. Et dans cette approche, on a l'aléa en entrée, qui correspond donc aux catastrophes naturelles. De cet aléa va découler l'exposition, qui devient maintenant le nombre de personnes concernées par le risque naturel. Donc c'est plus du tout la même définition de l'exposition. Et de l'autre côté, on a la vulnérabilité, qui désigne d'une part la vulnérabilité de sensibilité, en référence aux caractéristiques biophysiques du territoire, et la vulnérabilité de capacité d'adaptation, en référence aux capacités d'adaptation socio-économique du territoire. Et de telle sorte que la vulnérabilité a une dimension beaucoup plus qualitative et beaucoup moins quantitative que dans l'approche précédente.
Quelle approche est-ce que vous avez favorisée dans cette étude ?
L'approche quantitative, la première.
Alors, dans cette étude, justement, vous avez choisi une double approche en prenant en compte à la fois la vulnérabilité calculée, ce sont des critères sur lesquels on reviendra tout à l'heure, et la vulnérabilité qui est perçue par les exploitants eux-mêmes. Hélène Révalette, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire cette double démarche ?
Alors, c'est très important parce que pour que les gens, justement, ce qui va déterminer la capacité d'adaptation, c'est la perception que les gens ont, finalement, de se sentir ou pas en vulnérabilité et de d'où vient leur vulnérabilité. Donc, de plus en plus, dans les politiques publiques, on intègre, finalement, les perceptions des acteurs parce que ça va être déterminant de leur comportement profond, en fait, et notamment de la façon dont ils vont définir une stratégie. Du coup, il était important de voir non seulement la vulnérabilité des exploitations, mais dans quelle mesure les agriculteurs percevaient cette vulnérabilité et à quel facteur ils l'attribuaient. Ça permet après de mettre en place des politiques publiques qui sont plus ciblées finalement, et notamment en termes de sensibilisation, d'information, de façon que normalement la vulnérabilité perçue doit être équivalente à la vulnérabilité quand tout se passe bien. Mais souvent il y a des biais en fait, et les gens ne perçoivent pas toujours leur vulnérabilité.
Alors, 90 agriculteurs ont participé à cette étude, c'est bien ça, Abderraouza Attra ?
Oui, c'est bien ça.
Donc, c'est vous qui avez réalisé une grande partie du terrain, j'imagine ?
Oui, en fait, j'ai fait les questionnaires, mais juste, en fait, techniquement, pour la collecte de données, on a commencé d'abord un pré-diagnostic, en fait, en utilisant les rapports qu'ils ont faits sur cette zone, et notamment, après, il y a une deuxième phase, on a consulté, en fait, en collaboration avec la Chambre d'agriculture, avec les pays Languedoc et Vignoble, on a fait des entretiens semi-directifs avec les acteurs locaux et notamment avec les maires, avec la communauté de communes, avec les techniciens des chambres d'agriculture de chaque culture, de la viticulture, de l'arboriculture. Et après, on a compris qu'est-ce qui se passe dans les territoires. Et après, on a prévu, en fait, on a identifié quelques indicateurs, en fait, de la vulnérabilité qui existaient, qui peuvent potentiellement être impliqués dans l'approche de la vulnérabilité. On a validé les indicateurs. Et après, il y a eu en fait une deuxième étape de collecte de données précises à l'échelle de l'exploitation agricole. notamment avec les questionnaires avec les agriculteurs. Et on a choisi en fait les agriculteurs de façon pas aléatoire, mais on a essayé en fait, parce qu'en fait la zone, en fait, il y a la plaine et la montagne, on a essayé qu'il y aura en fait une représentativité entre la plaine et la montagne, et en même temps une représentativité en termes d'exploitation agricole. Par exemple, cette zone, elle est dominée par la viticulture. On a essayé en fait d'avoir plus de questionnaires avec les viticulteurs. Donc c'est ça. Et les questionnaires, ça a duré en fait 2 heures. Et on a vu qu'avec les agriculteurs, en fait, la perception de changement climatique, la perception de certaines variables en fait, de la vulnérabilité, et notamment une autre partie qui sur l'adaptation. Comment on prévoit l'adaptation au changement climatique à court terme et à long terme.
Et comment vous avez été reçu alors sur les exploitations agricoles? J'imagine que le fait de co-construire l'étude avec la Chambre d'agriculture, ça a dû aussi vous donner une assise?
Ouais, en fait, d'abord, je tiens à remercier tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont participé à cette étude. J'étais très accueilli avec les agriculteurs et à certains moments, j'étais accueilli pour faire des travaux, pour voir en fait comment on travaille, quelles sont les principales contraintes qu'ils ont vécues dans l'exploitation agricole. Et notamment, on a fait les questionnaires pendant l'été où il faisait très chaud. Et donc, principalement, j'étais reçu en fait soit les matins tôt, soit le soir.
Alors, si on en vient à la vulnérabilité que vous avez calculée, vous avez donc élaboré un indice de vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il prend en compte, cet indice?
Donc, l'indice de vulnérabilité qu'on a, en fait, on a fait une grille d'évaluation quantitative qui permet en fait de calculer un indice de vulnérabilité qui est composé de 3 composantes. D'abord, en suivant l'approche des GIEC, l'approche des GIEC de 2007, parce qu'en fait, celui de 2007, il est plus utilisé dans la littérature. Donc, la première composante, c'est l'exposition, qui prend en compte, en fait, qui explique en fait, à quel point en fait, les exploitations agricoles sont exposées au changement climatique. Deuxième composante, c'est la sensibilité. Et ici, en fait, s'intègre en fait les variables biophysiques. Et en utilisant ces variables, on peut expliquer en fait à quel point l'exploitation agricole est sensible au changement climatique, aux différentes aléas. Et après, la troisième composante, c'est la capacité d'adaptation pour expliquer comment faire face aux 2 autres composantes, notamment l'exposition et la sensibilité au changement climatique.
Et vous avez aussi tenu compte dans cette étude d'une autre approche qui sont les capitaux. Mélanie Requier-Desjardins, est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire en quoi ça vous a servi pour élaborer cet indice?
Oui, alors l'approche des capitaux multiples que l'on doit à Michel Garabet, en fait, prend son ancrage dans les travaux d'Amartya Sen sur les capacités. Et Amartya Sen explique qu'il faut voir au-delà en fait, de la richesse monétaire et du PIB pour comprendre ce qui fait justement le développement particulier d'un pays. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent, par exemple, que c'est le capital humain, l'éducation, qui est la variable la plus importante pour expliquer la richesse d'un pays. Et donc, cette capacité, elle a été travaillée par différents courants, notamment l'école des moyens d'existence qui va s'attacher dans le cadre de l'agriculture à montrer que l'exploitation finalement dispose de différents types de capitaux, un capital naturel qui va être son foncier et les éléments qui constituent ce foncier, la qualité de la terre par exemple tout simplement, ce qui peut y pousser, etc. Mais aussi un capital humain composé du savoir-faire, de l'éducation de l'agriculteur, un capital social composé de tout son réseau qui lui permet d'accéder à de nouveaux savoirs, qui lui permet aussi de faire face à des difficultés particulières, et enfin des capitaux plus économiques et financiers ou techniques. Et cette approche des moyens d'existence, elle est renouvelée donc, en évaluation économique par les travaux de Michel Garabet, qui explique que c'est l'ensemble des capitaux qui explique la nature contextuelle d'un processus de développement, c'est-à-dire que chaque territoire va disposer d'une gamme différente de capitaux donnés, et cette gamme différente de capitaux donnés va se traduire par une trajectoire de développement tout à fait spécifique et finalement territorialisée. Et c'est cette approche qu'on a souhaité utiliser pour formuler la capacité d'adaptation des agriculteurs.
Alors on va regarder justement les résultats donc de ce travail. Si on commence par l'exposition, donc selon les agriculteurs, quelles sont les menaces climatiques qui les concernent en premier lieu?
Dans cette zone, en fait, les agriculteurs ont senti plutôt exposés à la sécheresse.
Et vous nous disiez que vous aviez fait les questionnaires l'été, donc
ouais,
ça
c'est
joue.
Ça. Et après, il y a un autre, en fait, ici peut être expliqué aussi, en fait, que l'impact de la sécheresse est un peu global à l'échelle de l'exploitation agricole. Alors que l'inondation ou bien les gels peut être, en fait, localisé, en fait, à une parcelle ou bien à deux parcelles. Et c'est pour cela, en fait, les agriculteurs ont senti plutôt exposés à la sécheresse. Ici, qui est validé par les statistiques. Maintenant, dans ces territoires, on constate qu'il y a une augmentation de 0,5 pour degré Celsius chaque 10 ans, presque.
Et alors justement, toujours selon les agriculteurs, quelles sont les caractéristiques dont ils estiment qu'ils les rendent plus ou moins sensibles à ces menaces qui sont la sécheresse, l'inondation et le gel?
Bon, la sensibilité dans cette étude, en fait, expliquée notamment pour les cultures. Il y a deux types, en fait, de cultures. Il y a les cultures annuelles et les cultures pérennes. La sensibilité, en fait, par exemple, pour les cultures annuelles, il y a la sensibilité, notamment les types de sols. Il y a les sols, si les sols pauvres, en fait, ils sont plus sensibles que les sols riches. Après, il y a aussi les cultures. Donc, si les cultures, notamment, on parle, en fait, de diversification variétale et diversification culturelle. Et aussi, en fait, on parle aussi de l'âge de culture pour les cultures pérennes. Par exemple, les arbres, en fait, qui ont un âge avancé, en fait, sont moins sensibles que les nouvelles plantations, les nouveaux vergers. Et ici, en termes de perception de la sensibilité, ça change d'une exploitation à une autre. Par exemple, pour les viticulteurs, en fait, la sensibilité est exprimée, en fait, essentiellement par les porte-greffes et les cépages.
Alors ça, c'est pour tous les facteurs plutôt agronomiques. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui seraient des facteurs humains comme l'âge, l'expérience ou la formation qui s'ajouteraient à cette vulnérabilité? Mélanie Requier-Desjardins, si vous voulez compléter ça.
Oui, sur le capital humain, ce qui ressort fortement, notamment dans la perception des agriculteurs, mais aussi dans la vulnérabilité calculée, c'est leur expérience, c'est-à-dire la longévité de leur activité, de leur métier d'agriculteur et aussi leur participation à des réseaux agricoles, à des coopératives, donc à des structures collectives qui leur permettent bien sûr de mieux s'adapter. Et également sur la capacité d'adaptation, on était parti sur l'idée que la diversité des circuits de commercialisation serait un indicateur important, de même que la qualité en fait de la production et en particulier la certification qui permet d'accéder à de meilleurs revenus. Et lorsqu'on a confronté cette hypothèse avec les résultats sur la perception de leur capacité d'adaptation économique par les agriculteurs, on s'est rendu compte qu'eux aussi valorisaient la question de la commercialisation, mais plutôt sous l'angle du marketing. Et également, ce qui leur semblait capital pour pouvoir s'adapter, c'était l'existence de ressources extra-agricoles, en fait, issues de la pluriactivité.
Alors, à partir de ces résultats, est-ce que vous dégagez des types d'exploitation qui sont plus vulnérables au changement climatique? Et est-ce que vous avez constaté un écart entre la vulnérabilité perçue et la vulnérabilité calculée?
Oui, on a constaté en fait que les exploitations viticoles sont plus vulnérables que les autres exploitations.
En raison de la sécheresse notamment
Oui. Et aussi en fait les exploitations céréalières. Ces deux types d'exploitations sont essentiellement basées sur des sols pauvres. En fait, parce qu'en fait, les viticultures, ils sont généralement plantés sur des sols schistés. En fait, ceci, en fait, joue sur la qualité du vin, mais en termes d'adaptation du changement climatique, ça peut les rendre plus sensibles. Et aussi, en fait, pour les exploitations céréales, sont en fait cultivées sur des sols pauvres parce qu'en fait, les céréales, elles en apportent moins de valeur, en fait. Donc, ça ne vaut pas le coup de les planter en fait, sur de sol plus riche. Et surtout dans cette zone, en fait, il n'est pas très, très céréalier.
Alors, vous avez remarqué ce qu'on appelle un biais d'optimisme, et deux biais cognitifs, un biais d'optimisme et ce que vous appelez aussi une trappe de vulnérabilité. Hélène Révalette, est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux biais cognitifs?
Oui. Alors, en fait, effectivement, les gens ont tendance à sous-estimer finalement leur vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose de général. Hein. C'est pas que les agriculteurs. Ça a été montré par des psychologues. On a toujours tendance à penser que le problème est ailleurs et que soit on va mieux. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on a pu observer. Mais pas tant que ça, quand même. Il y avait globalement quand même une prise de conscience assez importante des agriculteurs de cette vulnérabilité. Par contre, ce que l'on a observé aussi, quand on a voulu regarder comment cette vulnérabilité affectait les types d'entreprises, alors au-delà du type de production qui effectivement crée une sensibilité différente, on a noté que les petites exploitations avaient moins de capacité à s'adapter. Et donc, en fait, on parle de trappe de pauvreté dans la littérature économique et nous, on a parlé de trappe de vulnérabilité, c'est-à-dire l'idée que des exploitations qui sont très vulnérables parce que notamment elles n'ont pas un certain nombre de capitaux, le sont de plus en plus et au bout d'un moment ont une incapacité finalement à s'adapter. Et ça revient aussi sur le fait que quand on a interrogé aussi les agriculteurs sur la façon dont ils envisageaient de s'adapter. Et là, on a deux grands types de mesures. On a des mesures qui sont plutôt à court terme, notamment bon, par rapport à la sécheresse, beaucoup ont réclamé l'irrigation. Donc effectivement, c'est une mesure à court terme. Mais en fait, à moyen terme, il y aura moins d'eau et donc l'irrigation n'est pas forcément. Donc peut-être qu'il faut au contraire changer de mode de culture. Et là, on est plutôt sur des adaptations à long terme. Et là, ils sont moins conscients de ça, en fait. Ils sont plus dans la réactivité à court et moyen terme que dans la transformation. En même temps, certains sont assez âgés, donc on comprend aussi qu'ils ne se projettent pas sur le très long terme. C'est une des difficultés.
Alors justement, vous êtes passé donc à la capacité d'adaptation. Quels sont les types d'agriculture qui s'adaptent le mieux, justement? Vous les avez, Abderraouf Zahatra?
En fait, il y a toujours en fait, les cultures pérennes en fait, qui s'adaptent mieux, parce qu'en fait, chaque année, ils ont en fait, l'opportunité d'apporter d'autres techniques, d'apporter d'autres cultures, par exemple, et se diversifier. Alors, mais il faut souligner, en fait, pour la viticulture, c'est un peu compliqué en fait, de parler, par exemple, de la diversification ou bien de l'irrigation pour la viticulture. C'est pas de solution d'adaptation en fait miraculeux, parce qu'en fait ils sont conditionnés par une cahier de charge en fait par les syndicats d'appellation, et de deux en fait pour la diversification, c'est pour les viticulteurs en fait, c'est la viticulture, c'est une identité en fait. Donc après une expérience de 20 ans, on peut pas en fait lui demander en fait de se diversifier ou bien de faire d'autres cultures. Donc eux, ils prononcent plutôt en fait une diversification variétale, qu'ils changent en fait les cépages, qu'ils changent en fait les porte-greffes, mais en fait il faut de l'accompagnement pour changer ou pour adapter. Et notamment, il y a un autre aspect, c'est l'accès en fait aux nouvelles technologies. C'est pas donné à tout le monde en fait. Les exploitations les plus vulnérables, ils n'ont pas l'accès aux nouvelles technologies, notamment les traitements de phytosanitaires, des précisions, des trucs comme ça. C'est pas accessible à tout le monde.
Et vous êtes tous les trois économistes, on imagine qu'il y a un coût qui doit rentrer en ligne de compte aussi, la dimension financière et un frein à l'adaptation climatique ou... Hélène Rivalette.
Oui, alors oui, effectivement, et quand on regarde au-delà de l'agriculture, dans les études plus générales sur la vulnérabilité, en fait, dans ce qu'ils appellent les capacités d'adaptation, ils mettent les questions de gouvernance, parce que là, on est à l'échelle des exploitations, mais il y a aussi finalement la vulnérabilité du territoire et de sa gouvernance à étudier au-dessus. Et puis, il y a effectivement tout ce qui est compétences et tout ce qui est financement. Et là, on retombe sur le problème des politiques publiques pour accompagner, parce qu'effectivement, les petits ont moins de financement, moins de possibilités de financement, d'autant que le changement climatique va créer beaucoup plus d'incertitudes et on va beaucoup plus savoir. En général, vous savez, on avait des périodes de vaches maigres, de vaches... Et il y avait une certaine périodicité. Mais là, on peut très bien avoir 3 années de suite, 3 années pour des raisons différentes où on perd la production. Et donc là, de ce point de vue-là, il va falloir mieux s'adapter en termes de trésorerie. Et là, c'est les politiques publiques qui doivent améliorer la résilience, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas trouver en interne.
Mais justement, est-ce que cette étude que vous avez menée, est-ce que vous avez tous mis en avant concernant la vulnérabilité des exploitations sur ce territoire, en l'occurrence, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé pour mieux concevoir les politiques d'adaptation au changement climatique ici? Est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce que déjà il y a des instances qui s'en sont saisies?
On a fait une restitution de cette étude, on a validé les résultats avec des participants de la Chambre d'agriculture depuis Languedoc-Vignoble et d'autres partenaires, et pour les résultats, ils valident en fait les résultats, et après pour les actions à mettre en place, en fait c'est un peu compliqué parce que ça demande en fait beaucoup de coordination entre les différents acteurs du territoire qui s'impliquent sur le territoire, et aussi en fait il y a aussi la projection en fait des politiques nationales à l'échelle locale. Ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait à la politique nationale d'adaptation, on parle plutôt en fait de réduction d'atténuation, de mesures d'atténuation, mais on parle peu en fait à l'adaptation. Et cette étude peut être en fait un premier étape en fait dans le processus d'adaptation. Et surtout
Est transposable à d'autres territoires, justement,
oui,
cette étude.
Oui, il est réplicable en fait à d'autres territoires. Après, on peut les simplifier, on peut réduire les nombres de variables, on peut les simplifier de façon simple pour qu'ils soient abordables à tout le monde. Mais il est réplicable en fait. Il n'y a pas de...
Abderraouza Atra, Mélanie Riquier Desjardins, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être?
Peut-être.
Très rapidement, il nous reste une minute. Mais...
Un des résultats forts de l'étude, c'est aussi de montrer que les agriculteurs les plus vulnérables sont ceux qui n'ont pas mis en œuvre d'action d'adaptation, ce qui renforce ce qui a été dit sur la nécessité d'avoir des politiques d'adaptation. Je voulais juste souligner que les coopératives, les chambres d'agriculture sont tout à fait conscients de la nécessité de contextualiser les actions d'adaptation et ils travaillent dans ce sens-là en termes de co-construction avec des acteurs territoriaux et en particulier avec les agriculteurs, et qu'on a d'autres outils qui sont les programmes alimentaires territoriaux qui abordent cette question, mais par le biais de la qualité de la consommation alimentaire, en promouvant des politiques ou des stratégies locales d'agroécologie. Malheureusement, ces politiques n'ont assez peu de moyens encore aujourd'hui pour être véritablement, effectives, efficaces, ou pour permettre de passer à l'échelle, en fait, cette question de l'adaptation.
Et on conclura là-dessus. Je vous remercie beaucoup tous les trois, c'était très intéressant. Et bonne poursuite.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir. Et j'accueille maintenant mon invité de dernière minute, Marianne Dupré-Gabiro. Donc vous êtes chef du service de culture scientifique, pardon, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science, donc c'est votre première, bienvenue.
Exactement, c'est ma première, effectivement.
Alors vous venez nous présenter un événement qui, lui, est bien connu des amateurs de sciences à Montpellier. Il s'agit du Bar des sciences. Alors très rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe du Bar des sciences? Comme disait Agnès, ce n'est pas une conférence.
Non, bien, c'est ça. Le Bar des sciences, c'est vraiment un débat participatif citoyen autour de toutes les sciences. Donc voilà, une fois par mois, on va proposer ce débat dans une brasserie ou à la médiathèque Émile Zola pour discuter de sciences avec, on fait venir des intervenants, des scientifiques et après, libre à qui veut venir discuter sur les différents sujets.
Alors on va commencer justement ce jeudi 29 janvier avec l'inauguration de la saison et le thème sera les maladies virales cette saison. Alors c'est cette saison comme thème. Est-ce que vous pouvez nous la détailler un peu, la problématique?
Oui, l'idée c'est de se questionner face peut-être aux multiplications des épidémies que l'on peut avoir ou à la diffusion massive des informations que l'on a à ce sujet. Et comment on peut distinguer la perception scientifique ou de la panique médiatique, ou au contraire, pour certaines maladies virales, peut-être un relâchement ou peut-être une banalisation. Donc c'est discuter un peu de ces phénomènes avec des scientifiques qui travaillent sur des maladies virales et de voir... ce qui peut sortir de ce débat avec le public.
Alors justement, qui seront les intervenants pour cette première?
Nous avons trois intervenants. Donc on a Bernard Taverne, qui est un anthropologue de la santé, qui travaille au sein du laboratoire de recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses. Et il est aussi coordinateur nord du site ARS Sénégal, qui est une unité qui s'appelle TransVIHMI, de l'IRD et aussi de l'INSERM et de l'Université de Montpellier. Nous avons Séraphin Gutiérrez, qui est un chercheur virologue au sein de l'unité Animal Santé, Territoire, Risque et Écosystème, qu'on appelle ASTRE, qui est un chercheur CIRAD, mais aussi donc cette unité est INRAE et Université de Montpellier. Il est aussi attaché au CHU de Montpellier avec un laboratoire de virologie. Et enfin, nous avons M. Alain Mackinson qui est professeur des universités et praticien hospitalier, infectiologue au sein du service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Montpellier. Et il est aussi président du comité de coordination régionale de la santé sexuelle Occitanie. Voilà, et ces trois intervenants scientifiques vont pouvoir effectivement apporter toutes leurs connaissances et expertises sur ce sujet. Voilà, ils ont trois, on va dire, expertises qui sont complémentaires et vont pouvoir échanger avec le public.
Alors on l'a dit, c'est le premier rendez-vous de la saison. On poursuivra ensuite tous les mois jusqu'en juin. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous donner un petit aperçu de cette nouvelle saison ? D'ailleurs, on en est à combien de saisons ? Je crois qu'on avait fêté les 20 ou les 30 ans du Bar des Sciences il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est...
Oui, on est beaucoup de saisons. J'ai pas le chiffre en tête exactement, mais on est...
c'est un rendez-vous pris de longue date.
Exactement, et qui est récurrent et qui, permet vraiment ce contact, j'insiste, entre quelqu'un qui vient effectivement prendre un verre, etc., et discuter de science de manière très simple et très factuelle aussi avec les scientifiques. Donc voilà, on commence la saison le 29 janvier à la Brasserie du Dôme à 19h30. Je dis juste ça puisque cette année, on change l'horaire. On a un petit peu avancé. Donc sur les maladies virales, et on enchaînera le mois de février, le 19 février, sur les espèces invasives. Voilà l'objectif zéro dégâts en Méditerranée, où on va pouvoir discuter justement de un petit peu d'état des lieux et de ce qui peut être fait ou pas. Le 19 mars, dans le contexte de la semaine du cerveau, on a « Quand l'oreille fatigue, le cerveau s'embrouille », toujours à la Brasserie du Dôme. Et le jeudi 16 avril, on passe sur les microplastiques de l'océan à l'assiette. Le jeudi 28 mai, on passe sur l'agroforesterie, pastoralisme, voilà, une révolution dans nos territoires, de voir ce qui se passe effectivement de ce côté-là. Et on finira à la médiathèque Émile Zola, à 19h, un autre créneau, sur un sujet totalement différent, collection d'amateurs, de l'intime au patrimoine scientifique. Voilà, pour essayer d'avoir plein de sujets différents et complémentaires. Je veux juste ajouter une chose sur toutes ces sessions. Il y aura une accessibilité pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes.
J'allais le préciser, oui, c'est traduit en langue des signes.
Pardon, j'ai coupé, c'est
parfait.
Ça
parfait, non, c'est très bien, non, au contraire, allez-y.
voilà, pour les personnes sourdes et malentendantes, il y a un interprétariat qui sera fait, et tout ça est fait dans le cadre de notre labellisation de l'université Sciences avec et pour la société. Voilà, en gros, pour la saison qui commence dans un peu plus d'une semaine.
Eh ben, un grand merci et revenez autant de fois que vous le voulez pour nous annoncer les prochains rendez-vous. La porte est ouverte.
Avec grand plaisir. Donc, merci de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup. Pour rappel, ça se passe donc le 29 janvier au Dôme à 19h30. Merci beaucoup. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.